Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gilbert Sette, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a publié « Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions de Buck. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, l'Observatoire français de conjoncture, sur la conjoncture ou de conjoncture économique ?
Des conjonctures économiques.
Wow. Vous vouliez dire un truc, je vous ai coupé la
parole.
Oui,
juste un point. Pour illustrer que les solutions à trouver sont complexes. On peut prendre l'exemple, mauvais exemple, on sait qu'il est mauvais avec recul.
Moi, j'aime bien quand on essaie de trouver des solutions. Même si on
Les partenaires sociaux, dans un ANI, un accord national interprofessionnel en 2013, on dit, pour éviter l'extrême pauvreté de travailleurs avec des temps partiels très courts, on va interdire les temps partiels inférieurs à 24 heures par semaine. A priori, c'est pas mal intentionné. Alors, ça a été transposé dans le droit positif, en 2014, avec d'ailleurs quelques dérogations. Et puis, avec un certain recul, il y a des chercheurs qui sont allés voir ce que ça produisait. Pauline Carry, entre autres,
Pensez au bonus-malus qui a été mis en place.
Oui, mais là, c'est pas le bonus-malus. Là c'était l'interdiction des temps partiels de moins de 24 heures. Et donc, elle a regardé ce que ça avait fait dans les entreprises. Et elle s'est rendue compte, elle a montré, que dans pas mal d'entreprises, ça avait conduit à détruire des emplois de moins de 24 heures, principalement occupés par des femmes, et ça avait abouti à la création d'emplois à temps plein, principalement occupés par des hommes. Et donc, plutôt que réduire le gender gap d'une certaine façon, ça avait accentué le gender gap entre hommes et femmes. Vous voyez, c'est-à-dire une mesure très bien intentionnée au départ a eu des effets pervers.
Ça me rappelle la contribution de Lalande.
Ça veut dire que dans le domaine de la politique économique, il faut se méfier, il faut évaluer, et il faut toujours se dire que parfois des mesures qui semblent logiques, qui semblent bonnes, adaptées aux questions posées, elles sont contre-productives.
C'est un sujet que l'intuition semble plébisciter et qui ne résiste pas à l'observation.
Comme une augmentation très forte du SMIC peut aboutir à augmenter la pauvreté si ça détruit des emplois.
Xavier, vous voulez réagir à ce que
tu disais ? Non, c'est intéressant parce qu'on peut, on peut réagir à cette expérimentation ou à cette analyse en disant en fait, il valait mieux garder les temps partiels de moins de 24 heures parce que, en fait, ça favorise l'emploi des femmes. Mais on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi, quand on propose des temps pleins à la place des temps partiels, les femmes ne les prennent pas. Et peut-être que cette mesure qui a été prise
familiales...
de supprimer... du coup, vous voyez, la perversité, elle n'est pas dans le fait d'avoir interdit les 24 heures. La perversité, elle est dans le fait que les femmes, même quand elles veulent prendre plus qu'un temps partiel, elles ne peuvent pas, parce que au sein de l'organisation du couple, c'est elles qui s'occupent des enfants et qu'il n'y a pas de mode de garde d'enfants pour leur permettre de travailler à temps plein. C'est ça la perversité, et c'est ça qui conduit à la pauvreté. C'est pas, et le fait d'avoir interdit les temps partiels de 24 heures, ça devrait plutôt nous porter notre attention sur cette question, plutôt que de nous dire, conservons le système tel qu'il est, parce qu'en fait, il est négatif, il serait négatif de supprimer les temps partiels de 24 heures pour l'emploi des femmes.
Mais j'aimerais...
Il y a un auditeur qui me dit qu'il a fait perdre une prime de rentrée scolaire à une collaboratrice en l'augmentant. Justement.
En l'augmentant, mais il y a des collaborateurs qui refusent d'être augmentés. Mais
alors, j'aimerais revenir,
sur les effets pervers.
Qu'on avance quand même.
Mais je voudrais juste répondre au patron de Michelin sur le SMIC.
Mais il y avait le patron de Michelin, j'aimerais que vous répondiez aussi sur le côté ultra-paternaliste. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos des gens.
Il nous écoute, le patron de Michelin.
Et je ne sais pas s'il nous écoute, mais les postures sont... Enfin, le capital est trop payé par rapport au travail, il le dit très clairement. Il faudrait plafonner les salaires les plus élevés. Enfin...
Non, que l'on interroge. Il n'a pas l'air de vouloir que l'on intervienne en légiférant.
Non.
Notamment d'ailleurs lorsque on l'interroge sur les salaires chez Excellentis, il dit ils font comme ils veulent dans leur entreprise. Nous, on a fait autrement. Et après tout, chacun a son modèle. Le modèle paternaliste de Michelin, il assume et il a sa cohérence. En revanche, sur le SMIC, on était en train d'évoquer les effets pervers de mesures qui sont bien intentionnées. Mais le patron de Michelin lui-même dit nous avons une véritable difficulté fait avec la compétitivité de nos produits qu'on n'arrive pas à vendre. S'il veut pousser à l'augmentation du SMIC pour qu'ensuite il vienne dire on a un problème de compétitivité, on n'arrive pas à vendre, je ne suis pas totalement certain que l'augmentation du SMIC ne fasse pas perdre plus d'emplois qu'on arrive à en créer avec le SMIC tel qu'il est. Donc les effets pervers, comme ceux qu'on vient d'évoquer avec des mesures qui sont très très bien intentionnées et qui vont exactement à l'inverse de ce que l'on voudrait, ça me semble dangereux à appréhender. Qu'ensuite on ait un débat, pourquoi pas. Mais je crains les effets économiques d'une volonté d'augmenter le SMIC de façon généralisée. Je ne pense pas que ça soit la voie vers laquelle il faudrait aller, surtout quand on va commencer à évoquer nos relations avec la Chine.
Mais il considère que le capitalisme est allé trop loin. Formule du capitalisme. Vous aviez fait une chronique en disant peut-être que le libéralisme était allé trop loin.
Non, je disais que
il considère que le capitalisme est allé trop loin. Même si on a coutume de dire qu'en France, le partage de la valeur ajoutée entre capital et travail ne s'est pas déformé depuis de nombreuses années. Mais en France, c'est un groupe mondial après Michel.
Oui, mais cela dit, la philosophie qui aspire son discours sur cet équilibre, effectivement, est une philosophie que l'on retrouve assez bien en France et probablement plus en France que dans n'importe quel autre pays.
Bon, on ne veut pas fabriquer de la valeur sur le dos des gens.
Écoutez, je pense qu'il n'y a personne autour de cette table qui voudrait venir en contradiction avec cette phrase.
Xavier Dabat, vous voulez dire un mot là-dessus ?
Moi, ça m'évoque quand même un petit commentaire qui me semble important, c'est... Enfin, moi, ce que je lis dans le discours du patron de Michelin, c'est l'idée que peut-être que dans un monde de globalisation où la compétitivité devient le levier unique, on conduit à une forme de dépréciation de la valeur du travail, et que peut-être qu'il essaye de vendre qu'une petite forme de protectionnisme européen permettrait d'avoir une rémunération un peu plus décente pour les gens.
Il ne lit pas ça à la rémunération, il lit ça au fait d'avoir un outil industriel sur notre continent.
Ça, c'est pas du paternalisme, ça c'est un appel au protectionnisme, avec peut-être des motifs pertinents pour le faire. Probablement à l'échelle européenne et pas nationale, mais voilà.
Pardonnez-moi, d'ailleurs, de ce point de vue-là, on a souvent...
Il n'est pas le seul.
Je ne suis pas totalement certain, d'ailleurs, qu'il s'agisse de protectionnisme. Je crois qu'il s'agit d'avoir les mêmes règles pour l'ensemble des acteurs, et ces mêmes règles, on les impose...
On ne les aura pas.
Non, mais on ne les aura pas.
On ne les aura pas. Les Chinois ne vont pas se mettre à produire vert comme nous, avec les normes sociales que nous avons, et ils n'ont pas le même bagage social que celui que nous avons aujourd'hui.
Donc, si le fait de vouloir seul faire respecter, bon. On appelle ça du protectionnisme, je veux bien, je ne suis pas totalement certain que le terme soit adéquat. Mais en tous les cas, on a commencé à le faire pour les taxes carbone, sur les questions environnementales. Dans la RSE, il y a aussi le volet social. Okay. Et vouloir, effectivement, imposer un certain nombre de règles aux produits qui sont importés pour qu'ils puissent arriver à contribuer au financement de notre modèle social, il me semble qu'il y a là une certaine cohérence. D'ailleurs, l'idée d'avoir une TVA sociale, c'est bien cette idée-là, que les produits importés puissent également contribuer au financement de notre modèle social.
Moi, j'entends tout à fait ce que dit Léonidas. La globalisation, l'Organisation mondiale du commerce se sont bâtis sur l'idée que, en ce qui concerne les normes sociales, en dehors de quelques tabous infranchissables, comme le travail des enfants, l'esclavage, le travail des prisonniers, en fait, les normes sociales étaient propres à chaque pays. Et était en fait pouvait être un avantage compétitif, c'est-à-dire que avoir un niveau de vie plus bas, un SMIC plus bas, ne pouvait pas être considéré comme du dumping et était quelque chose qui était de l'ordre de l'organisation sociale du pays. Et en particulier, ça permettait d'intégrer les pays en développement qui fatalement n'avaient pas du tout les mêmes sociales.
C'est parce qu'on reproche aux Chinois, absolument, d'avoir un coût du travail beaucoup plus faible que le nôtre. On leur reproche l'ultra subvention de certains secteurs.
Oui, mais
l'empreinte carbone des produits.
Ce qu'a dit Léonidas, c'est quand même l'idée qu'il fallait prendre en compte notre système social et les normes sociales, et que ça allait un peu plus loin que cette fois-ci le travail des enfants, l'esclavage, le travail des prisonniers, et que c'était quelque chose.
Et ça rejoint le propos du.
Et ça rejoint. Et c'est un propos qui a plutôt tendance à monter. Mais vous voyez que c'est une extension de ce qu'on appelle la juste compétitivité à un domaine qui, auparavant, avait été explicitement exclu. Voilà, donc c'est une rupture.
J'entends bien.
Xi Jinping est à Paris, donc c'est l'élément d'actualité. Évidemment, il y a toutes ces tensions commerciales, les enquêtes dans tous les sens anti-dumping, les Européens qui observent comment sont fabriquées les voitures électriques, maintenant les Chinois qui vont vouloir regarder de près ce qu'il y a dans les bouteilles de cognac. Tout ça est en train de prendre une tournure qui tourne un peu au vinaigre. La solution, moi j'ai dit ce matin qu'à mon avis, il n'y en aura pas de solution. Et c'est effectivement la question de savoir si comme tout le monde, les Européens disent qu'on a besoin d'un peu de protection.
Mais vous
de,
avez deux points.
Vous avez évoqué. Faites pas trop long. Hein,
deux de points d'abord. D'abord, le premier point que vous avez rappelé, le partage salaire-profit en France ne s'est pas déformé en faveur du capital de façon structurelle. Il y a des fluctuations annuelles, bien sûr, fluctuations en période de crise par ailleurs, mais il est à peu près constant depuis la fin des années 80. Ce qui fait d'ailleurs un particularisme français. Hein, c'est pas déformé en faveur du capital. Par rapport à la Chine, ce qui est reproché à la Chine, effectivement, c'est pas du dumping social, c'est des subventions. Bon, le rapport de force entre un pays comme la France et la Chine, faudrait poser évidemment immédiatement les choses d'une façon plus européenne, c'est ce que fait d'ailleurs le président avec ses rencontres avec Ursula von der Leyen, mais le rapport de force avec la Chine est plutôt du côté de la France. Le déséquilibre commercial, il est de 50 milliards en faveur de la Chine. Dans nos rapports commerciaux avec entre France et Chine. Donc, s'il y a des normes, s'il y a des limites qui sont faites, s'il y a une taxation dans des entreprises pour des produits qui sont subventionnés en Chine avant d'être exportés, je veux dire, qui est le grand perdant d'une guerre commerciale entre l'Europe dont la France et puis la Chine, c'est évidemment la Chine. Donc il faut être bien conscient du rapport de force.
Et un peu
le rapport de force est européen et il est français dans ce rapport bilatéral. Donc il faut mettre les choses sur la table. Il faut espérer qu'il y aura un tout petit peu de détermination de ce point de vue-là de notre président dans ses rencontres avec Xi Jinping. Détermination aussi dans le domaine des droits de l'homme, dans des domaines autres que des domaines purement économiques.
En tout cas, je trouvais que le message adressé par le président chinois dans le Figaro ce matin était un message...
Je ne l'ai pas lu encore, il y a écoutez, un papier fleuve, les trois pistes, dit-il.
Mais c'est un très beau papier, c'est un très beau message, c'est un très beau message d'ailleurs qui s'inscrit dans la durée et dans la continuité entre deux États très indépendants, entre la France et la Chine, avec des liens historiques qui le rappellent et qu'il veut prolonger avec un discours de paix. Enfin, alors après, il y a tout ce qui appartient à la langue de bois diplomatique. Mais en tous les cas, voilà, non mais très bien. Mais
il ne va pas faire une tribune belliqueuse dans le Figaro le jour de son arrivée à Paris.
Certes, voilà. Enfin, on voit quand même le président russe faire des tribunes et des propos belliqueux à longueur de temps. Bon. Le discours mais belliqueux vous voyez, fait partie. Bon, ce n'est pas tous les cas le discours de la Chine. Et ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que il y a, vous évoquiez ce matin le débat avec Jean-Marc Daniel.
Le débat, une forme de schizophrénie. Lui, c'est le consommateur, moi, c'est le producteur. On se bat depuis des mois autour de ça.
Maintenant, quel est, dans un rapport de force diplomatique et commercial entre deux puissances économiques, une autre voie qu'une voie de schizophrénie? Il n'y en a pas. Bien entendu que ça va être de la schizophrénie. Bien entendu qu'il y a une part de capitaux que l'on voudrait attirer en France pour avoir des investissements. Et bien entendu que l'on veut continuer à commercer de manière équitable, sans avoir des produits qui rentrent sur notre marché avec des subventions qui font que notre modèle est cassé. Enfin, tout ça, c'est de l'intérêt bien compris et juste. Et ça fait partie des relations économiques et commerciales. Pour le moment, ça me semble appartenir à l'ordre naturel des choses.
Je vais lire après la tribune de Xi Jinping, mais quand je vois la manière dont la Chine s'est comportée depuis 2001, sa date d'entrée dans l'OMC, la main sur le cœur et quand on regarde...
Il y a quelque chose,
on avance après.
Oui, juste pour rebondir à ce que disait Xavier Tabot, c'est aussi un pays qui a sorti des centaines de millions de ses habitants de la pauvreté. Le modèle est réel, le résultat est tangible. Il s'est fait en quelques décennies. C'est un miracle économique. C'est devenu le moteur de la croissance mondiale. Il y a quand même quelque chose que nous pouvons potentiellement apprendre de ce que nous avons pu voir de nos yeux depuis 30 ans.
Finances publiques, baisser les dépenses ou augmenter les taxes, point d'interrogation, signé Gilles Berset dans Telos. Telos, c'est toujours des articles fleuves, visiblement.
c'est un peu plus long que des chroniques dans la
presse. On a 12 minutes, il faut que la parole tourne. Oui. Quel est le message que vous voulez...
Parce
que
moi,
quand j'ai vu ça, je me suis dit, les deux, mon général. Hein.
Non, mais le message... Il y a une doxa qui est assez partagée, consistant à penser qu'il vaut mieux faire de la consolidation par hausse des impôts que baisse des dépenses. Or, il y a une littérature économique, quand même, qui commence à être abondante, qui a été portée par des économistes renommés, je pense à Alizina qui a disparu il y a maintenant 3 ans, qui nous montre qu'au contraire, l'impôt, la hausse de l'impôt étant toujours d'une façon ou d'une autre distorsive, la baisse des dépenses est moins pénalisante pour la croissance que l'augmentation des impôts.
Baisser les dépenses nuit moins qu'augmenter les impôts. Croissance.
Et ça, c'est basé sur l'étude de 200 épisodes de consolidation fiscale dans des pays très avancés. Il y a même des cas assez nombreux dans lesquels la baisse des dépenses peut s'accompagner d'une augmentation, d'une accélération de la croissance, parce qu'elle est rassurante, en quelque sorte, pour les ménages.
La visibilité fait que l'épargne va commencer à baisser.
Visibilité, cohérence et confiance.
Alors, quand ça va bien en France, on épargne parce qu'on ne sait jamais. Quand ça va mal, on épargne parce que ça ne va pas bien.
De ce point de vue-là, on peut se dire que le discours des pouvoirs publics va dans le sens des messages de cette littérature récente des dernières décennies.
Le discours. C'est de l'urgence absolue.
Le discours de baisse des dépenses.
Qui va chercher
le discours de baisse des dépenses et pas de hausse de l'impôt.
Oui, le discours.
Néanmoins, au-delà de ce discours, on voit que les méthodes employées sont peut-être très pénalisantes pour la croissance. Méthodes employées qui vont du rabotage, qui ne s'attaquent pas à certaines niches qui sont très porteuses en termes de rendement. C'est un peu...
On a deux niches qui coûtent très cher, qui s'appellent crédit d'impôt recherche et service à la personne.
Oui, mais je pense par exemple à d'autres niches. La TVA réduite pour la restauration, dont on a montré qu'elle avait une efficacité économique assez faible.
Le problème, Gilbert, c'est que...
Les 10% de réduction...
Si vous la remontez la TVA dans la restauration, là vous aurez un effet inflationniste.
Les 10%...
Même si vous n'avez pas eu l'effet...
C'est pas évident.
Ça marche pas dans un sens, mais ça marche dans l'autre.
Les 10% de réduction, les 10% de réduction fiscale pour les retraités, pour frais professionnels, vous voyez, ces deux niches réunies, ça correspond à peu près à 8 milliards d'euros par an. C'est quand même pas négligeable.
Les 8 milliards d'euros. D'abattement, vous voyez, pour les retraités.
C'est ces deux niches réunies. On peut penser, alors c'est évidemment une augmentation des prélèvements, le fait de supprimer ces deux niches, mais ces deux niches sont quelque chose d'aberrant. Et c'est des rendements assez élevés pour sans doute un effet croissance assez faible.
J'ai un auditeur qui me dit que si on veut des smicardiser, on divise le SMIC par deux et le tour est joué. Ok.
Non, mais c'est un point intéressant, parce que c'est aussi parce qu'on l'a beaucoup augmenté.
Bah oui.
Il y a beaucoup plus de smicards.
Il y a du rattrapage, oui.
Ah, il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il y a beaucoup de smicards à un SMIC très élevé. Mais bon.
Oui.
Vous faire un petit commentaire
sur... Bien sûr, baisser les dépenses nuit plus... baisser les dépenses nuit moins que monter les impôts sur l'activité, nous dit Gilbert Sept.
Je commence avec un peu de polémique. Alesina a effectivement écrit des papiers dans lesquels il a expliqué que quand on baissait les dépenses et quand on réduisait les dépenses et que même on réduisait les impôts, on pouvait en fait avoir, non pas une récession, mais une expansion. Ça a donné lieu à un débat très important au moment de la crise de 2008 et surtout de la crise de 2012. Rappelez-vous, la Commission européenne, le FMI, Blanchard, avec une remise en cause complète des travaux d'Alesina. Ensuite, il a été démontré qu'en fait,
qu'il a approfondi
tout un tas de problèmes méthodologiques derrière, qui faisaient que, il y avait aussi plein de situations où, quand on baissait les dépenses, ça réduisait l'activité et ça pouvait le faire de façon très forte à la fois à court terme, mais le FMI est allé plus loin aussi à long terme. Par ailleurs, n'oublions pas le contexte. On est dans un contexte de changement climatique et on sait aussi que s'il n'y a pas un certain nombre de dépenses publiques qui sont faites pour le changement climatique, les conséquences en seront catastrophiques et on en voit des exemples tous les jours. Quand on n'entretient pas les infrastructures, les autoroutes se fissurent, les autoroutes s'effondrent, les régions sont inondées, les maisons sont...
Voilà. Oui, enfin, il y a des dépenses de fonctionnement...
Est-ce que la suite de votre raisonnement, Xavier, consiste à dire en fait l'inverse de ce que dit Gilbert, il vaut mieux monter les impôts...
À ça. Alors, après, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est celui dans lequel on est depuis la crise du Covid, la crise énergétique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, ce contexte, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'on a fait du quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, ça a été de dépenser énormément d'argent.
C'est bon.
Bien plus que nécessaire. Mais, en fait, c'était tout à fait justifié par l'urgence. Et probablement, si on avait radiné à ce moment-là, on aurait eu des conséquences négatives tout à fait déplorables. Donc, le fait qu'on ait dépensé sans compter était important. Mais on a dépensé sans compter.
Dans un contexte.
Oui, dans un contexte particulier. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que l'épargne, par exemple, des ménages est considérable suite à cet épisode. Pourquoi elle est considérable ? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dépensé n'a pas été nécessairement utile et nécessaire et n'a pas été dépensé par un certain nombre d'acteurs. C'est vrai pour des ménages, c'est vrai dans la restauration, par exemple. Je veux dire, ça serait, par exemple, un très bon moment pour réaugmenter la TVA dans la restauration, précisément parce que la restauration a été massivement aidée et qu'on sait que sur les bilans des entreprises de restauration, l'effet, il est encore positif et il est encore là.
Je suis d'avril, je ne peux pas...
Terminé, Xavier.
Et donc, dans cette période post-quoi qu'il en coûte, où on est à dépenser sans compter, dire on va récupérer de l'argent par des augmentations d'impôts ciblées, éventuellement temporaires, me paraît pas une mauvaise chose. Ensuite, mettre à plat la fiscalité pour
on le
soit
fait
plus
un
juste.
Peu hein, sur les autoroutes, on le fait sur les énergéticiens.
On le fait un tout petit peu sur les énergéticiens, bon. Mais on pourrait le faire de façon beaucoup plus généralisée. Après, remettre à plat la fiscalité, ça c'est toujours bien, mais il faut pas oublier que les dépenses ont aussi un effet positif, que ce soit dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé,
absolument,
et dans le changement climatique. Non, et là, la liste, elle est longue.
Je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit d'abord par rapport aux restaurateurs, parce que je trouve que avoir un modèle économique.
Ça, là, 2025, ses choix vont être encore plus complexes qu'en 2024.
Non, mais j'entends
chaque
bien
fois qu'on va chercher des milliards en plus, il y a un moment, les milliards de réserves, on leur limite.
Ça me donnera l'occasion de rebondir sur la part des entrepreneurs dans les JO, mais vouloir, comment dirais-je, envisager de relever la TVA sur les restaurateurs alors qu'ils sont confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, avec pour un certain nombre d'entre eux une situation absolument dramatique où ils se demandent de mois en mois s'ils vont réussir à tenir et à maintenir leurs exploitations, je trouve que c'est le danger des raisonnements théoriques. Et pardon, mais sur les dépenses de l'État, on peut bien entendu regarder uniquement les dépenses d'investissement, et c'est formidable, et les dépenses pour la santé et pour l'éducation, mais il y a tellement de dépenses de fonctionnement qui sont des milliards, dont on se demande s'ils ne freinent pas l'économie plutôt que la favoriser, qui me semble qu'il y a là des gisements dont on aurait tort de ne pas essayer de les rechercher. Puisque je disais un mot sur la restauration, peut-être juste un mot par rapport au rôle des entrepreneurs dans la période des JO, parce qu'on a cette période qui va arriver, et vous savez qu'ils n'arrivent pas à embaucher, et il va bien falloir accueillir des millions de visiteurs en France avec des restaurants qui n'arrivent pas à servir parce qu'ils n'ont pas trouvé avoir des salariés avec des CDD ou des CDI parce qu'il s'avère que ces emplois ne sont pas pourvus. Les emplois en auto-entrepreneur, il y en a en quantité, et vous savez qu'il y a là un gisement très important, et on a fêté très récemment les 15 ans des auto-entrepreneurs qui avaient été lancés par Hervé Novelli, et il y a une tribune qui a été signée par le GHR, France Digital et la Fédération des auto-entrepreneurs, où ils demandent au moins au moins durant cette période des JO, on sanctuarise le fait de pouvoir recourir aux auto-entrepreneurs sans que ça puisse être qualifié, pour que au moins tous ces emplois puissent être pourvus et que l'on puisse accueillir les JO. Et là, véritablement, si on ne le fait pas, alors je ne dis pas si on en met, on augmente leur TVA par la même occasion, je pense que ça sera la mort du petit cheval, mais en l'occurrence, qu'on leur donne la possibilité d'y recourir, c'est probablement la meilleure manière d'apporter cette flexibilité nécessaire pour que les JO soient
réussis. Vous appelez à une sorte d'assouplissement temporaire des conditions.
Mais vous savez, il y a les règles qui sont qui sont acceptables pour employer des auto-entrepreneurs, et puis vous avez la réalité du terrain, qui est que quand vous avez l'inspection du travail qui vient dire, vous savez, vous n'avez pas le droit de le faire, les gens ne le font plus. C'est pas qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas si c'est autorisé ou pas, mais la peur d'une requalification est telle que on préfère ne pas y recourir. Donc ça fait partie de ce qui pourrait effectivement être sanctuarisé, au moins pendant la période des JO.
Gilbert, vous vouliez réagir sur...
Petite réaction.
Dépenses.
Bien sûr. Il n'y a pas les dépenses, un gros paquet dépenses d'un côté, un gros paquet impôts de l'autre. Il y a des dépenses qui sont très productives en termes de croissance. Il y a des impôts qui sont particulièrement négatifs en termes de croissance. Je pense que, quand même, que pour la TVA restauration, la TVA réduite, on dispose maintenant de quelques évaluations qui nous montrent que l'effet a été très très marginal pour un coût très élevé. Donc c'est un point qui est important à dire. Pour les dépenses, je vais juste prendre un exemple.
Elle va être bien plus grande que les dépenses en TVA.
Je voudrais juste prendre un exemple.
Prenez un exemple et laissez-moi 30 secondes.
Il a été décidé qu'au 1er janvier, les retraites seraient revalorisées comme l'inflation, alors que les salaires ont perdu en moyenne, sauf le SMIC, sauf les salaires les plus bas, ont perdu du pouvoir d'achat sur les deux dernières années. Il a été décidé de revaloriser donc les salaires, les retraites, de 5,3%, sachant que même que les partenaires sociaux ont été plus prudents, 4,9% pour Agirc-Arrco. C'est quand même un coût phénoménal, cette revalorisation. près de 15 milliards d'euros. Oui. On n'est pas loin d'une quinzaine de milliards d'euros. Quand on va gratter après quelques centaines de millions d'euros pour sur tel ministère, sur des budgets de fonctionnement, ça dégrade la qualité du service public. La dégradation de la qualité du service public, ça peut être une perte énorme. Je pense à cette mesure qui, auquel heureusement on a renoncé après l'avoir évoquée, les heures supplémentaires dans l'éducation nationale. C'est une dépense, elle, qui est très productive. C'est peut-être dans l'éducation nationale la dépense la plus redistributive. Ça permet de sauver parfois des élèves qui, pour des événements familiaux un peu dramatiques, sont en perdition. Ça permet de les sauver. Ces 600 millions auxquels on a d'économies auxquelles on a renoncé sont très productifs. Donc, bien sûr, dans les dépenses, il y a différents volets à voir. Mais on peut se dire, rétrospectivement, que les presque 15 milliards d'euros de revalorisation des retraites et de maintien de leur pouvoir d'achat, alors que ça n'est pas le cas pour les salaires et les salaires moyens, c'était si peut-être une erreur à
faire. Non, mais j'entends que vous considérez peut-être qu'il est temps de se reposer la question de la TVA dans la restauration. J'entends aussi ce que dit Léonidas, que la totale indexation des pensions de retraite sur l'inflation, qui est un choix politique, va peut-être trop loin. Et puis ces fameux 10% d'abattement pour frais professionnels quand on est retraité, est-ce que ça a du sens? Non, mais il y a plein de choses dans ce
Il y a des postes de dépenses qu'on peut revoir.
Xavier Tambon, on a une minute. Vous vouliez réagir à quel sujet, là?
Non, juste pour dire, l'augmentation de la TVA, imaginons qu'on la fasse maintenant. À l'occasion des JO, l'inflation JO va être bien supérieure à tout ce que la TVA pourrait produire comme effet inflationniste. Parce qu'il y a une inflation JO quand même.
Bah sur le logement.
Le logement, sur la restauration aussi.
Sur la restauration, je ne suis pas certain qu'il y ait une inflation JO, mais en tous les cas, c'est que l'on soit capable de répondre à la demande, ce qui déjà suppose que les entreprises soient capables d'embaucher. Et pour le moment, c'est le mur sur lequel ils butent.
C'est une mesure redistributive, par ailleurs, il faut bien voir ça. Je veux dire, dans le revenu des ménages, la part de dépenses en restaurant est croissante avec le revenu. Donc, je veux dire, faire sauter cette réduction, cette TVA à taux réduit dans la restauration, c'est redistributif.
Le problème, Gilbert, c'est que quand on décide de baisser la TVA dans un secteur, évidemment, une bonne partie va aller dans la marge du producteur. Par contre, si on la lui remonte, la TVA, une bonne partie va aller dans les prix, cette fois-ci.
C'est redistributif. L'abattement de 10% sur les retraites pour frais professionnels, c'est quelque chose qui est redistributif. Puisque 55% des ménages ne sont pas
dans la restauration, on a établi des règles de protection sociale et d'accompagnement.
Alors, quand il continue comme ça, moi je m'approche du micro. Et met fin à l'émission sans qu'il s'en rende compte.
Bon,
on a fini, Léonidas.
On la prolonge jusqu'à
demain. Non, mais c'est pas possible. Donc, c'était Léonidas que le jour.
Oui,
mais si vous voulez. Demain matin, j'ai des gens déjà.
On va les appeler. On va leur dire.
Il manque quelqu'un vendredi, s'il y en a un qui veut se coller vendredi ici. Avec plaisir. Parce que moi, j'ai une semaine normale, messieurs. Même le 8, même le 9.
Et nous donc, cher.
Et ben voilà. Gilles Berset, Léonidas Kalogiropoulos, Xavier Timbaud, demain 9h.